Je me présente, bonjour tout le monde. Merci d'abord pour l'accueil, pour votre invitation, pour faire l'ouverture de votre journée de découverte de l'esprit, journée de découverte aussi de différentes voies vers la paix, vers la joie, vers la grâce. Je suis conférencier et enseignant d'une matière qui s'appelle « Un cours en miracles ». Donc Antoinette et Viviane pensaient que ça sera intéressant de vous présenter cette matière, de vous donner l'opportunité de connaître, de savoir de quoi il s'agit. C'est un sujet qui est bien connu dans le monde anglophone et pas encore particulièrement connu en France, dans le monde francophone. Donc c'est notre plaisir depuis 2 ans maintenant à présenter, à offrir les conférences et de l'enseignement sur ce sujet en France. Nous sommes principalement dans le sud-ouest puisque nous habitons le Lot et nous rayonnons autour de notre base. Voilà, ça fait maintenant la 3e fois que nous venons à Limoges, où nous avons eu vraiment un accueil chaleureux. Je peux vous parler de ce sujet pendant 1 heure, pendant laquelle j'espère vous donner une idée, un aperçu de quoi il s'agit. Parce que même si ça n'a pas spécifiquement un rapport spécifique par rapport aux médiumnités, nous pouvons intégrer quand même ce sujet, ce que je vais vous présenter, au sein de ce grand sujet. Parce que, après tout, nous cherchons les voies d'accès vers l'esprit, vers cette autre dimension que nous savons tous qui existe derrière une sorte de voile. Le voile qui est devant nos yeux tous les jours, et ça sera un petit peu le sujet, le thème, l'orientation, la porte d'accès de ce que je vais vous dire ce matin. C'est cette sorte de voile qui semble être devant nos yeux, de le comprendre, de le regarder. La médiumnité prend une autre façon de regarder cette sorte d'aveuglement. Comment percer cette barrière qui semble nous séparer de cet autre monde. Et un cours en miracle prend une autre direction. Au point qu'un cours en miracle prendrait plutôt l'avis ou l'idée que nous avons tous en nous, bien sûr, la possibilité ou la graine de cette médiumnité. Nous dirions plutôt peut-être nous avons tous la possibilité d'être canal. Canal dans le sens que nous sommes tous toujours en contact avec quelque chose, sans le savoir. Et c'est le sans le savoir qui est très intéressant pour nous, que nous voulons découvrir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la nature de ce sans le savoir, de cette voile, de cette chose qui semble nous séparer de notre connaissance, de notre dimension, de notre façon de reconnaître ce qui se passe dans ce monde. Donc, juste pour vous présenter d'abord de la façon la plus basique, l'œuvre, c'est un livre, voilà, assez impressionnant quand même. C'est tout ce que c'est à l'origine. Un cours en miracle est un livre de philosophie, de spiritualité et de psychologie. Comme je vous disais, c'est connu dans le monde anglophone déjà depuis la première édition est sortie en 1975. Il s'est vendu à plus de 2 millions de copies dans le monde anglophone, dans le monde francophone à plus de 100 000 copies, je pense, dont une certaine partie, bien sûr, au Québec. C'est un livre d'autodidacte, est divisé en 3 parties. Une première partie, texte de 700 pages à peu près, d'explication, une deuxième partie d'un livre d'exercice de 365 exercices, donc évidemment un exercice ou une leçon par jour. Ça c'est pour commencer la formation ou la réformation de notre esprit, notre façon de réfléchir pour nous. Commencer à ouvrir différentes voies, différentes portes dans notre esprit. C'est peut-être la particularité, entre autres, de ce livre, c'est qu'il y a cet aspect exercice, avec ces 365 exercices qui sont les méditations, les contemplations. Et après 7 années passées à faire ces exercices et à faire confiance à l'auteur derrière ces mots magnifiques, nous commençons à ressentir au fur et à mesure, progressivement, une autre présence. Une présence qui nous accompagne, déjà de par la lecture du texte, et deuxièmement, de par l'accomplissement de ces exercices. Nous avons l'opportunité de faire confiance à cette présence que nous commençons à ressentir qui est derrière. Et donc, c'est là où nous devons parler du vrai auteur du livre, du vrai auteur du livre, qui n'est pas l'auteur ou les auteurs dans la matière, c'est-à-dire. C'est-à-dire que le livre a été écrit, mais écrit par une façon, par un processus de dictée intérieure. Donc, la personne qui l'a noté n'est pas vraiment la personne, en fait vous êtes vraiment un public averti, je peux vous dire, n'est pas bien sûr la personne qui a transmis les mots. On peut dire qu'elle était canal, l'auteur derrière était canal pour cette présence qui s'est manifestée à travers elle, mais nous allons développer ce sujet au fur et à mesure pendant cette heure que nous avons ensemble. Donc, pour expliquer vraiment l'origine de ce livre, nous devons remonter le temps un petit peu, en 1965. En 1965, nous sommes maintenant à New York et nous remontons Broadway vers les lieux de l'Université Columbia, la Columbia University. Et donc, nous allons pénétrer dans les locaux, dans l'enceinte de leur centre, le centre médical, CHU, je pense que vous l'appelez, de l'université, une université prestigieuse. Nous allons monter au troisième étage et nous allons entrer dans le bureau de Bill Thetford, qui est le directeur du service psychologique de l'hôpital. Il va venir dans son bureau, son collègue, Helen Schachman, tous les deux professeurs en psychologie et vraiment bien autorité établie dans leur matière. Et nous allons entrer dans une discussion avec eux, où nous allons plutôt observer une discussion entre eux. Et cette discussion, cette conversation qui était censée être vraiment tout ce qui est le plus banal, va s'avérer de plus en plus difficile. C'est-à-dire que ces gens-là, qui étaient responsables pour l'étude des relations humaines entre les gens, entretenaient une relation entre eux qui était exécrable, qui était épouvantable. Il faut savoir qu'ils étaient en liaison avec une autre université à l'époque, ils étaient censés travailler ensemble pour accomplir une étude. Mais les relations déjà entre ces deux personnes était insupportable. Et donc, par la suite, ça se répandait dans tous les services et même qui faisait influencer le travail avec cet autre groupe. Donc, ce qui était censé être vraiment un travail en harmonie était exactement l'inverse. Eux, ils avaient quelque chose à apprendre, ils avaient un énorme obstacle dans leur propre relation de travail. Au point que, juste l'anecdote, c'est que, c'est curieusement, c'était en le milieu des années 60, donc c'était vraiment l'époque du peace and love, et on peut dire que dans leur bureau, c'était exactement l'inverse, comme s'ils s'entraînaient à faire cette découverte de ce qui était les vrais conflits au fond de la nature humaine. Ce jour-là, le directeur Bill Thetford, on peut dire, il a vu qu'ils avaient atteint les limites de ceux qui pouvaient supporter. Donc, il s'est tourné vers Helen. Il a dit, Helen, franchement, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous devons vraiment nous efforcer à trouver une autre voie. Et peut-être pour la première fois dans leur, je pense que c'était déjà 7 ans de collaboration, elle lui a dit « Oui, Bill, je suis d'accord et je t'aiderai à le trouver. » Ce que nous pouvons considérer peut-être comme le premier miracle de ce cours, c'est qu'elle était d'accord avec lui pour la première fois. Peu de temps après, je pense que c'était juste une question de mois, elle commençait à avoir des rêves étranges, des rêves qui le faisaient entrer en communication avec une présence. Elle avait déjà ressenti cette présence auparavant, même depuis qu'elle était petite. Mais par contre, c'était une présence qui la mettait mal à l'aise, qu'elle essayait d'occulter de sa vie. Elle était elle-même athée et ne voulait plus savoir des questions de Dieu, de spiritualité, certainement pas de spiritualité, elle n'était pas du tout spirituelle elle-même. petit instant. Je pense que je vais me prendre le pied dedans encore. Elle était athée, et on peut même dire qu'elle était contre l'idée de la religion, de la spiritualité. Et donc, tous ces phénomènes occultes, mystérieux, la laissaient vraiment mal à l'aise. Et puis un soir, à peu près 2 mois après ce jour fatidique, quand elle a dit oui à Bill, elle commençait à recevoir une impulsion intérieure, une voix qui lui disait « Ceci est un cours en miracle, s'il te plaît, prends note. » Elle était toute affolée, elle ne savait plus quoi faire parce que la voix maintenant s'est vraiment concrétisée avec une intention, une mission qui lui demandait de faire quelque chose, qui demandait une collaboration. Collaboration, voilà. Et donc, elle appelait son chef supérieur, il lui disait « Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je pense que j'ai subi une sorte de psychose et je dois être malade, je deviens folle. » Et lui, curieusement, déjà, cette époque n'était même pas encore le New Age. Il avait déjà lu un petit peu sur les expériences mystiques. Il avait lu sur Edgar Cayce. Et donc, il disait, non, je ne crois pas. Je crois que ça, c'est de l'ordre d'une expérience mystique et je pense que tu dois essayer de continuer. C'est-à-dire, je pense que tu dois essayer de faire ce que cette voix te demande de faire. C'est ce qu'elle commençait à faire. Tant bien que mal, on peut plutôt souligner le mot mal, qu'elle avait vraiment une difficulté importante à faire cet exercice. Et pourtant, quelque chose en elle a dû être d'accord pour le faire, parce qu'ils ont travaillé 7 ans ensemble pour faire ce premier manuscrit d'un cours en miracle. Elle qui transcrivait, qui écoutait ses paroles à l'intérieur, comme une sorte de dictée intérieure, qu'elle les notait le soir, quand elle pouvait, quand elle voulait. Et puis, elle passait son bloc-notes à Bill Thetford, son supérieur, le lendemain matin, qui les tapait à la machine. C'est comme ça qu'il faisait vraiment en tandem ce travail qu'elle n'aurait pas été capable de faire livrer à elle-même, tant importante était sa peur. Sa peur de cette présence qui était en elle, pourtant, elle avait quelque part accepté de faire ce travail. Et c'est au fur et à mesure qu'ils commençaient à prendre la mesure de ce qu'ils étaient en train de faire, ils se rendaient compte que c'était une œuvre déjà d'une grande beauté, en anglais, d'une énorme beauté, une œuvre lyrique qui laissait planer l'esprit, qui emportait l'esprit ailleurs, qui n'était pas écrit comme d'autres œuvres. C'était vraiment transmis par une autre présence. Et cette présence s'est identifié au fur et à mesure comme Jésus, qui n'est pas le Jésus biblique, mais on pourrait dire le Jésus historique. Parce que, bien sûr, personne n'est sûr si la vision de l'Église transmise par la Bible est vraiment une image exacte de la vie de Jésus. Les gens qui se penchent sur cette œuvre commencent à ressentir cette présence derrière et ressentent que, même si ce n'est pas le Jésus historique, bien sûr, on est dans l'impossibilité de savoir exactement ce qu'il voulait dire. Il y a certainement une vraie présence, on peut même dire une autorité. On sent une vraie connaissance derrière, une vraie sagesse derrière qui vient d'ailleurs. Maintenant, je ne vais pas dire que la lecture se fait facilement, même on peut dire peut-être le contraire. Je ne sais pas si entre vous, il y en a quelques-uns qui l'ont déjà abordé, qui l'ont déjà feuilleté un petit peu. Juste pour vous dire qu'il n'est pas très facile à lire, mais il vaut certainement la peine. D'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle nous faisons cet enseignement. C'est pour essayer d'aider les gens à surmonter ces différents obstacles d'aborder le livre, de percer cette difficulté de lecture. Et même s'ils n'arrivent pas à vraiment aborder le livre, de continuer peut-être avec nous à juste s'imprégner des différents messages du livre. Et peut-être par la suite, à un moment, quand ils se sentent prêts, de recommencer une lecture et peut-être à ce moment-là, ça va plus de sens. ça va leur parler plus. Savoir que l'une des raisons que la lecture est un petit peu difficile, c'est parce qu'en anglais, ça a été écrit dans un langage poétique. Et quand je dis poétique, je veux dire vraiment comme de la poésie. C'est-à-dire dans un rythme métrique, le même rythme métrique que Shakespeare utilisait pour écrire ses pièces de théâtre. Ça s'appelle le pentamètre iambique. Ça a une certaine forme. Pour respecter cette forme en anglais, l'auteur Jésus a utilisé une certaine structure de langage. Donc, quand il s'agissait de faire la traduction, les traducteurs étaient devant cette complication, cette question, est-ce qu'ils devraient respecter le sens ou est-ce qu'ils devraient respecter la forme? Et c'est là où, pour respecter les deux, il y a certains compromis qui ont été obligés d'être faits, il a été obligé de faire certains compromis. Et donc, on peut avoir l'impression, des fois, ce n'est pas très clair. Il y a même des doubles négatifs et des fois des triples négatifs qui, en anglais, marchent. D'accord ? En français, ça marche moins bien, on peut le dire. Et j'encourage tous les gens qui essaient d'entreprendre ce livre d'essayer de persister un petit peu. À la fin de cette séance, je vous parlerai un petit peu plus comment faire les premiers pas dans cette œuvre, si tel est votre souhait. Mais entre-temps, je voudrais vraiment avancer un petit peu plus pour vous dire de quoi il s'agit. Nous pouvons dire que c'est un message d'amour. Tout simplement. C'est un message d'amour, c'est un message d'espoir, c'est un message de grâce, c'est un message de joie qui nous parle de notre monde, qui nous parle de notre vie, qui nous parle de notre réalité. L'auteur nous parle comme si nous ne sommes pas juste ces petits corps assis dans ces chaises qui se promènent tous les jours dans les rues. Il nous parle comme si déjà nous sommes autre chose. C'est surprenant. À la lecture, c'est surprenant. Des fois, on a l'impression qu'il me parle, mais il me parle à moi qui n'est pas tout à fait le moi dont j'ai l'habitude. Ça transporte. Voilà. Ça nous élève vers notre endroit. Et au moment que j'ai reçu ce livre dans les mains, j'avais déjà lu d'autres œuvres de la spiritualité, et je peux dire que c'était le seul qui avait cet effet particulier sur moi. Je pense que d'autres gens disent la même chose à peu près. C'est qu'il me fait ressentir que je suis autre chose que ce que je pense être habituellement. Et c'est ça peut-être la chose la plus étonnante, la chose plus merveilleuse. Il nous présente une image de nous-mêmes qui n'est pas celle qu'on connaît habituellement. On a une opportunité de se connaître différemment ou de commencer une vraie découverte de ce que nous sommes en vérité. Et il nous parle comme si nous sommes cet magnifique être que quelque part nous savons tous nous sommes. Et donc, on peut dire que c'est un message d'amour, un message de vérité, un message de réalité. C'est une réponse. C'est une réponse à nos questions. Et peut-être à la question. Je me réveille le matin, chacun se réveille le matin, comme ce matin, tous les autres jours de la semaine, de l'année. J'ouvre mes yeux et tout de suite je sors de cette cocon de sommeil. C'était un bon sommeil, ce n'était pas un bon sommeil. Je me réveille, je commence à prendre conscience de reconnaissance de ce que je suis, de ma vie ici. Des fois, dans les rêves, on flotte, on est d'autres personnes, on a toutes sortes d'expériences. Et puis, le matin, le réveil sonne et je dois revenir, entre guillemets, à moi-même. Et il commence un processus de réflexion sur moi, sur ma vie. Comment je vais faire ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Les premières questions commencent. Comment est bien aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour garantir d'éviter les expériences négatives ou douloureuses et d'essayer d'optimiser les expériences positives? Qu'est-ce que je peux faire? Je commence cette réflexion et j'ai toujours les bras jusqu'à là. Okay? Je commence à baisser les draps, je dois commencer la routine pour me lever. Et puis, il y a d'autres questions qui commencent à se présenter, à se former dans ma tête. Ah, j'ai un rendez-vous avec cette personne-là, qu'est-ce que je peux faire pour faire sûr que ça se passe bien? Je dois aller faire les courses, comment faire pour éviter de dépenser trop d'argent, parce que la dernière fois, vraiment, j'ai fait des excès. Chaque fois que je vais au magasin maintenant, c'est plus de 130 euros, c'est 150 euros en grande surface. Il y a un tas de différentes questions qui commencent à se poser dans ma tête. J'arrive dans la salle de bain, je regarde cette image dans la glace, très bien coiffée. Et puis, je commence à me préparer. Je m'adresse à l'image dans la glace, d'accord, inconsciemment, peut-être consciemment, et au moins j'ai l'impression de coiffer quelqu'un. Je me coiffe, je me prépare, je fais ma toilette. Et puis, je vois maintenant une image un petit peu transformée de moi-même, heureusement, une image qui est au moins présentable dans la rue. Et puis, juste avant de partir et quitter la salle de bain, je regarde une dernière fois dans la glace et je pose la question. Quelle est la question? Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Qui est cette image que je regarde dans la glace tous les matins? Qu'est-ce que c'est? Dans quel monde est-ce qu'il vit? Et je regarde toutes les questions que je me suis posées jusqu'à ce moment-là. Comment tu vas faire ceci, cela, comment faire en sorte d'éviter les pièges de la circulation, est-ce que je peux partir en peut-être 5 minutes plus tôt pour éviter la circulation parce qu'hier il y avait des travaux, il y avait une bouchon, peut-être je peux faire par là. Et puis oui, effectivement, arriver 5 minutes en retard maintenant au travail, j'ai pas envie de me heurter contre une certaine personne qui est très rapide à faire des réflexions sur moi, ceci, cela. Et je vois soudain que toutes ces questions que je m'étais posées, depuis l'instant que j'ai retiré les draps, il s'agit, toutes ces questions, se réfèrent ou sont en rapport avec l'image dans la glace. La personne que je pense être. La personne que je pense être est un être quand même avec ses sensibilités, même ses susceptibilités, même avec ses vulnérabilités. Il n'est pas invulnérable. D'accord? On peut lui dire des choses qui vont lui blesser. Il peut avoir mal dans la journée. Il peut avoir peur. Il peut être anxieux. Il peut être triste. Il peut être chagriné. La personne en face de moi, l'image que j'ai de moi-même, cette image n'est pas parfaite. Ce n'est pas l'enfant magnifique de l'univers, de Dieu, dont on nous a tant parlé pendant nos années de lecture et d'études de la spiritualité. L'image que je vois de moi-même est moins quand même de cette perfection dont on nous a toujours parlé. Pourtant, cette perfection, cet amour, cette unité, elles doivent être là. Elles sont là, quelque part, devant nous, dans cette salle de bain, dans cet auditorium. Ces qualités parfaites et magnifiques de ce qui est la réalité réellement sont toujours, toujours présentes. C'est ça la nature de cette présence. Elle ne peut pas être absente. Quoi qu'il se passe dans cette vie, quoi qu'il se passe dans nos vies personnelles, cette sécurité parfaite, cet endroit de tranquillité n'est jamais absent, ne peut pas disparaître. C'est ça la communication avec l'au-delà. C'est ça que l'au-delà veut nous communiquer. L'autre monde, l'autre dimension. Nous sommes toujours en sécurité. Quoi qu'il arrive dans nos vies, et n'importe ce que je pense va m'arriver dans la journée, mais je ne le vois pas. Je l'oublie systématiquement dès l'instant que je retire les draps et il se passe tout ce cheminement, des questionnements dans ma tête. Je ne me vois pas comme ça, je ne me vois pas être parfait, je ne me vois pas faire partie de cette perfection. Et la deuxième question de l'existence, c'est pourquoi? On nous a tous promis cette magnifique présence, cette majesté. C'est le fond de l'existence. Pourtant, Est-ce que je le vois dans la glace le matin? Est-ce que je vois un reflet de ça quand je sors dans la rue et je vois les autres conducteurs dans la voiture, chacun blindé à son voisin, à essayer juste de tracer, aller au travail, aller faire ses courses au plus vite? Est-ce que je ressens ce courant sous-jacent, en dessous de tout? Non. Pourquoi? Deuxième question. Et c'est là où j'ai envie de vous faire voyager avec moi un petit peu pour essayer de retrouver un contexte pour comprendre cette question. La problématique, c'est l'amour est universel, cette présence universelle. C'est pas juste amour dans le sens que, oui, tout le monde sait que l'amour est bien, le nom est beau et l'amour est partout et tout ceci. Non, on parle d'une vraie présence réelle au-delà de tout ce qui se passe dans ce monde ici. C'est la promesse de l'au-delà. C'est une réalité. D'accord, nous n'arrivons pas à le toucher, même pas souvent, peut-être systématiquement, on n'arrive pas, d'accord. Néanmoins, ça c'est clair. La question, la problématique qu'on nous présente, c'est si c'est une constante dans l'existence, pourquoi je ne le vois pas? Au moins, j'identifie, au moins je commence à être sur la bonne voie, j'ai une bonne information. Il est constant cet amour, je ne le vois pas. Ok, maintenant la question, pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire? Dans l'univers d'un courant de miracle, c'est le genre de questions qui commencent à ouvrir les voies vers une autre connaissance. Donc, pour mettre en contexte cette schéma, cette problématique, je vais vous raconter une petite histoire, quelque chose qui m'est arrivé véritablement il y a quelques années maintenant. Nous allons remonter le temps encore. Nous sommes maintenant en 1990 et vous allez m'accompagner dans un petit séjour que je vais faire dans les Pyrénées. Donc il m'est arrivé un petit événement un petit peu embarrassant. Je vais le partager avec vous en étant petite communauté ici et vous n'allez pas en parler en dehors de cette salle. Je suis sûr que je peux vous faire confiance. Donc, vous m'accompagnez dans ma petite voiture que je viens d'acheter, ma première vraie voiture. C'était une Lancia Prisma que j'ai achetée à Paris au moment de m'installer dans le Lot. J'étais dans le Lot et donc avec ma belle petite voiture qui avait quand même 100 000 km, j'avais pas d'expérience avec les voitures, je pensais que c'était déjà beaucoup, il fallait que je le bichonne, une jolie petite voiture. J'avais deux amis à l'époque, Abigail et David, qui voulaient faire un petit séjour avec moi, sachant que j'avais cette petite maison dans le Lot, et bon, j'étais déjà dans le sud. Allez, on va faire un petit séjour quelque part, où est-ce qu'on va aller? Eux, ils avaient décidé, on allait faire des Pyrénées. On va faire les Pyrénées, d'accord, ben, j'aurais préféré faire le Méditerranée, mais bon, vous avez envie de montagne, moi de la mer, c'est pas grave. Je suis spirituel, je sais faire des concessions. Et donc, nous sommes partis, il faisait un peu maussade en pleine. Au fur et à mesure que nous montions vers la montagne, il commence à faire meilleur et meilleur. Ah, finalement, le soleil qu'on avait cherché depuis si longtemps. Ce qu'il a fait, il avait fait vraiment mauvais en pleine depuis une moment. Donc, on sort de la voiture, on s'échange, on troque les jeans pour les shorts, on met une petite chemise à manches courtes, lunettes de soleil, chapeau, et tout ça. Le plus qu'on monte en montagne, et bien sûr, le plus que le soleil brille, le plus on a l'impression qu'il fait chaud et froid en même temps. C'est très agréable. On commence à arpenter les différentes routes de la montagne, en particulier une route qui faisait une sorte de route entre la plaine et la haute montagne qui serpentait dans les différentes vallées. C'était une route assez impressionnante parce qu'ils étaient obligés à des moments de faire les ponts très importants sur les différentes vallées. Et après, il y avait une sorte d'éperon qu'il fallait traverser avec un tunnel. Moi, j'étais déjà assez impressionné. Je suis un petit peu intimidé par les hauteurs. Et je commençais à voir, le plus qu'on prenait de l'altitude, qu'il y avait quand même les ravins, c'était assez précis. Oui, il y avait des précipices. Oui, voilà, vous savez de quoi je parle. Et donc, j'étais assez impressionné, surtout avec cette route sinueuse. Vous voyez, à des moments, vous ne savez pas ce qui est au-delà. Déjà, j'étais impressionné par ça. J'avais ma belle petite voiture. Je ne voulais certainement pas l'esquinter sur les petits rambards de la route, parce que la route n'était pas large non plus. Et voilà, j'étais un peu anxieux. Je ne peux pas dire que j'étais vraiment très tranquille. J'étais certainement pas dans un état méditatif. il se présente devant moi un tunnel. Mais ce n'était pas l'un des petits tunnels qu'on a eu jusqu'à là. C'était un grand tunnel. Au point que je ne voyais pas vraiment la fin. De là où j'étais, je ne voyais pas la fin de ce tunnel. C'est curieux quand même. J'entre dans le tunnel. Et au fur et à mesure que j'avance, j'étais peut-être au début à 60, j'ai ralenti vite jusqu'à 50, 40, mais ça commençait à s'assombrir. Je dirais, il y avait de moins en moins de lumière, de clarté dans le tunnel, pourtant il y avait un petit peu d'éclairage. Juste suffisamment pour voir à peine, tout devenait un petit peu pénombre. Et donc au fur et à mesure, je dis, mais c'est vraiment curieux. Ce tunnel n'est pas praticable. Je ne vois pas le bout. L'éclairage n'est pas suffisamment vraiment pour voir les lignes tracées au sol. Je commençais à avoir l'impression que je pouvais heurter même les côtés si je ne faisais pas attention. J'agrippais le volant de plus en plus. Je sentais vraiment une transpiration monter en moi. Je ralentissais à 30 à l'heure. Et ça commençait ça continuait à tchatcher derrière moi à toute allure, mes deux invités qui étaient dans le monde, qui ne voyaient pas du tout le stress, quasiment la panique, et qui commençaient à me remplir. Et puis d'un coup, j'étais peut-être à 20 à l'heure, vraiment je ne voyais rien. Et puis les deux autres s'arrêtent net de parler, me regardent, mais Bernard, qu'est-ce que tu vois? Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Vous voyez, les DDE, je ne sais pas qui, n'ont pas fait le travail qu'il fallait, n'ont pas fait l'éclairage, et c'est vous, maintenant, qui m'ont emmené sur cette route sinueuse, je vais escanter ma voiture, vous voyez, on ne voit rien sur cette route ici. Comment tu veux que j'avance? Il faisait une noire pour moi. Et puis, tous les deux, d'un coup, ils commençaient à ricaner. Mais à ricaner. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez est si loufoque dans cette histoire? Et il me regarde, c'était David, et il a dit, Bernard, tu n'as pas pensé enlever tes lunettes de soleil? J'avais des lunettes de soleil noires, mais vraiment foncées. Parce que je pensais, c'est cool. C'était pas cool dans le tunnel. C'était pas cool du tout. Qu'est-ce que je me sentais bête? Mais qu'est-ce que je me sentais bête? Là, j'étais en train de me stresser pour absolument rien. Mais plus que ça, j'étais en train d'en vouloir aux cantonniers, à la DDE, qui n'ont pas fait leur travail comme il fallait. Il n'y avait pas un éclairage suffisant. À mes amis qui m'ont forcé à prendre cette route dans les Pyrénées, à découvrir ces magnifiques paysages. Et puis là, le problème qui m'habitait complètement était un faux problème. Simplement parce que j'avais gardé mes lunettes noires. C'est véridique, c'est embarrassant, d'accord, j'admets, mais c'est vrai, et cette histoire est restée avec moi. Des fois, on traverse des petites expériences comme ça, et ça reste avec soi, et on les revisite plus tard, et on sait pourquoi. Il y avait vraiment un message dedans. La métaphore, je trouve, par la suite, est vraiment puissante. Le message pour moi qui était tellement puissant, c'est ça, c'est pas simplement que j'avais les lunettes noires qui m'empêchaient d'être bien, qui m'empêchaient de voir la lumière qui était déjà présente, il suffisait juste de les enlever et puis après je voyais le bout du tunnel facilement, c'était clair, la route était suffisamment claire, j'ai pu faire mon chemin tranquillement. Le vrai souci dans tout ceci, ce n'était pas, ou le vrai problème, ce n'était pas que j'avais les lunettes. C'est que je ne savais plus que je les avais. Je ne savais même pas que mon problème, c'était mes lunettes de soleil. J'étais sûr que mon problème, c'était la route qui traversait la montagne comme ça. Ils auraient pu faire autrement, ils auraient pu faire une saignée dans la montagne pour laisser entrer la lumière, ils auraient pu faire plein d'autres choses. C'était un éclairage supplémentaire qu'ils auraient dû faire, ou peut-être on n'avait même pas besoin de prendre cette route. Qui veut visiter la montagne de toute façon? Ma tête, automatiquement, dans le système de pensée habituel avec lequel je me réveille tous les matins, m'a dit, le problème n'est pas en moi ou avec moi, ni certainement pas avec ma perception et ma vision, le problème est blablabla. Bla, 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 bla. Toujours, toujours à l'extérieur de moi. Notamment chez les autres. Voilà, il faut le dire. problème n'est pas chez moi, le problème est chez les autres. Si vous, vous avez mieux travaillé, si vous, vous avez mieux fait votre travail, si vous, vous avez fait d'autres choix, moi, je n'aurai pas à subir ce que cette situation me fait subir maintenant. C'était aussi clair, aussi simple pour moi. Je ne savais même pas que j'avais des lunettes que je pouvais enlever. Et voilà le point de départ, le vrai point de départ pour cette recherche ici. Ça met notre recherche spirituelle dans un autre contexte, ou dans un contexte particulier. Nous sommes maintenant à la recherche de nos lunettes noires. Si la lumière est là, si la lumière est quelque chose qui ne peut pas être occultée, qui ne peut pas être absente, ce qui par définition sera dans un sens une impossibilité, la lumière céleste, la lumière majestique, magnifique de l'existence, elle ne peut pas être occultée, elle ne peut pas être détruite. Elle doit être là quelque part. Mais on peut se l'occulter. On peut porter une lunette sans le savoir. C'est possible. Donc notre travail dans ce cas-là, c'est de commencer à chercher la lumière en cherchant les lunettes noires pour pouvoir ensuite les enlever. Et je peux dire, c'est ça vraiment le contexte du travail d'un courant de miracle qui prend une position un petit peu différente de d'autres spiritualités. C'est-à-dire que nous avançons vers la lumière en avançant vers les ténèbres. Nous allons vers le tunnel, nous entrons dans le tunnel pour voir les difficultés que nous allons avoir. Nous n'avons pas vraiment besoin de chercher le tunnel c'est notre vie. Dès que je me réveille le matin, je vais avoir des difficultés, je vais certainement en trouver, sans souci. Si je n'en ai pas assez, je n'ai qu'à mettre les infos. Donc, ou regarder le journal, ou aller dans un café, ou je ne sais pas où. Je peux toujours chercher les conditions dans la vie qui me rappellent des problèmes quelconques. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, on change le contexte. On va vers les ténèbres. Les ténèbres deviennent, dans un sens, notre lieu de travail. Pour utiliser les ténèbres pour voir où moi je garde toujours les lunettes. Et au fur et à mesure que je vois ce qui me paraissent comme les ténèbres, qui ne sont pas les vraies ténèbres, au fur et à mesure que je regarde les ténèbres dans ma vie, je peux utiliser cette information pour dire « Ah, je porte encore des lunettes qui m'empêchent de voir la lumière qui est derrière ». C'est ça la vraie particularité au travail de ce cours. Et c'est parce que nous avons peur de cette lumière que ça prend du temps. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il y a un livre d'exercice de 365 leçons à la fin duquel l'auteur nous dit « Ceci est un début, ce n'est pas une fin, mais c'est un début. C'est le début de votre apprentissage maintenant. » Vous commencez à juste ouvrir votre esprit. Votre esprit est maintenant un petit peu ouvert pour considérer une autre possibilité. Ce qui vous fait mal n'est pas le manque d'éclairage dans le tunnel. Ce qui vous fait mal n'est pas les décisions des autres. Ce qui vous fait mal, vraiment, c'est que vous avez mis des lunettes, une sorte de voile, devant la vision de la lumière qui est présente avec toi. Tu as oublié que tu as fait, tu portes les lunettes et maintenant tu insistes que le problème est ailleurs que là où il est vraiment. C'est-à-dire, ça commence à changer entièrement notre façon de faire notre vie, de faire ce travail spirituel. Pour la plupart du temps, les spiritualités nous apprennent que le problème, d'accord, il y a une certaine partie du problème à l'intérieur, il y a une certaine partie du problème à l'extérieur. On nous demande de méditer, de trouver le calme à l'intérieur pour faire face aux menaces venant de l'extérieur. Et ce cours va nous dire qu'il n'y a pas de vraie menace à l'extérieur, à notre paix, parce que la paix intérieur, la vraie paix dans l'existence ne peut pas être endommagée. La vraie l'aspect de l'existence est toujours présente, n'importe et malgré tout ce qui se passe dans cette existence ici, aussi difficile que ça puisse être pour saisir, pour comprendre. C'est ça le message que les plus grands sages ont essayé de nous communiquer. Et ils ont l'impression, ces plus grands sages, quasiment de vivre dans un autre monde. Ils sont ici, et en même temps, c'est comme si ils habitent une autre dimension en étant ici. Rien ne les touche. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans la compassion à comprendre et comprendre les difficultés des autres. C'est parce qu'ils ont vu que la vraie difficulté de l'être humain n'est pas vraiment dans son monde extérieur, mais dans son monde intérieur. Une fois qu'il a fait face à son monde intérieur, une fois qu'il va vers l'intérieur en utilisant l'extérieur, il a une chance, une opportunité vraiment de retrouver cette lumière parce qu'elle est là en lui. Cette lumière est là en chacun et ne peut pas être écartée. Nous pouvons nous en voiler, nous voiler les yeux à cette magnifique présence. Et c'est un peu dans ce sens-là que le cours dirait que nous sommes tous les canaux. Dans le sens que nous avons tous cette opportunité de retrouver cette lumière en nous. À l'instant que nous commençons à toucher à nous souvenir de cette lumière, à cette présence d'amour, à ce moment-là, nous devenons naturellement un canal pour cet amour. Nous aurions écarté suffisamment notre peur de la lumière, pour laisser venir l'amour naturel en nous, et à ce moment-là, n'importe ce que nous disons aux autres, ça va venir d'une source aimante. Peu importe ce que c'est, un enfant qui trébuche sur nous, qui nous heurte, on l'aide à se redresser, on lui dit va petit, continue ton chemin, n'importe. On croise quelqu'un dans l'ascenseur, on se heurte, on se bouscule, et ou on serre la main de quelqu'un qu'on sait a des mauvaises pensées à notre regard. Peu importe, ça ne nous touche pas. On sait d'où ça vient chez lui. Il a aussi ses propres lunettes noires qui l'empêchent de voir la lumière qui est en lui, qui lui fait dire des bêtises, des choses insensées. Et au lieu maintenant que ça réagit négativement chez nous, on est accompagné par cette présence, par ce sentiment que ça va, mais profondément ça va. Il ne nous a pas blessé vraiment. Il a blessé peut-être l'image que j'ai vue de moi-même dans la glace le matin. Mais en utilisant ce petit instant de ténèbres, quand j'ai croisé cette personne que je sais pertinemment, il avait parlé de moi juste la veille, en mal, parce qu'il y avait quelqu'un qui me l'avait répété, j'utilise cette opportunité de ténèbres, entre guillemets, pour voir que la raison que ça m'a fait mal, c'est pas parce qu'il m'a vraiment atteint. Si j'avais mal, si je prenais personnellement ce qu'il m'avait dit, c'est parce que j'avais décidé de remettre mes lunettes noires, j'ai écarté complètement la présence de lumière, et j'ai dit, mais regardez-moi ça, je me sens mal à cause de ce qu'il a dit. Je ne sais pas si vous avez aussi étudié un petit peu, ou vous avez croisé... Vous avez fait un petit percée peut-être dans la psychologie. Des fois, les deux mondes se croisent parce que la psychologie fait partie importante d'un grand miracle. C'est là où on découvre les concepts comme le déni, la projection, le gain secondaire, ce genre de choses. Pour les gens qui sont assez friands de ce milieu, de ces idées, ils vont peut-être bien raisonner avec un cours en miracle. Parce que le cours nous aide à comprendre que justement, que quand j'étais dans le tunnel, le fait de ne pas voir le problème chez moi, ça voulait dire que j'étais dans le déni. Okay? J'étais dans le déni, dans le sens que tout ce qui m'importait à ce moment-là, c'était de focaliser entièrement sur ce qui se passait à l'extérieur. Je ne voulais pas voir ce qui se passait à l'intérieur. Et le deuxième phénomène dont on parle beaucoup dans le cours, c'est la projection. C'est-à-dire que la façon de dire, de toute façon, ce n'est pas un problème. Moi, tout le monde le sait. Moi, il n'y a aucun souci, il n'y a rien chez moi. C'est un problème chez eux. S'ils avaient décidé autrement, s'ils avaient fait d'autres choix, tout ira bien chez moi. Je n'ai qu'à attendre à ce qu'ils fassent des bons choix et tout ira bien dans ma vie. Ça s'appelle la projection dans le langage de la psychologie. Et nous l'étudions beaucoup. C'est des outils très puissants pour nous aider à comprendre la dynamique de l'esprit. Cette problématique, on change le contexte de notre expérience dans la vie. C'est peut-être ça que nous voulons vraiment découvrir à la fin. C'est quoi le mécanisme par lequel nous expérimentons la vie? Nous avons une idée. Il se passe des choses dans la vie, voilà, ces choses-là m'affectent. J'ai une réaction par rapport aux différentes conditions dans la vie. Et c'est là où, des fois, j'en ai marre. J'en ai marre d'expérimenter la vie comme ça, d'être bafoué par tout ce qui se passe dans la vie, que ce soit sur les infos à la télé, à recevoir des images tout le temps qui me font ressentir cette déprime, ce désespoir, ce chagrin pour les conditions du monde. Ou que ça soit dans mes relations personnelles, où j'ai l'impression que l'autre personne en face de moi dans mon couple ne va jamais me comprendre, ne va jamais vraiment m'écouter, sauf peut-être avec mes enfants qui avec qui j'ai l'impression qu'ils me poussent, ils me repoussent encore, ils veulent créer une distance entre nous. Il ne veut pas qu'on soit proche. J'ai qu'une envie qu'on soit proche. Et pour être proche, il faut qu'il m'écoute. Il faut qu'on puisse percer cette dynamique qui a commencé à s'installer entre nous. Lui, il ne voit qu'une chose, c'est d'établir son identité par rapport à la mienne. Et à un moment, on s'est dit, mais il doit avoir une autre voie, une autre façon de faire, tout comme Bill et Helen, ils ont dit en 1965. C'est-à-dire, mon expérience de la vie n'est pas vraiment adéquate ou n'est pas optimale. Il y a une autre façon d'expérimenter la vie. C'est la promesse de la spiritualité, la promesse de tous ces merveilleux bouquins que nous lisons depuis des années. Il y a une autre expérience de la vie où nous sommes plus tranquilles systématiquement. Pas juste le moment de lire un bouquin. Pas juste le moment d'être assis dans son salon, dans son fauteuil avec une tasse de thé. Pas juste assis dans sa voiture, on est en train d'écouter une jolie musique, mais tout le temps profondément. Et pour atteindre ce but d'expérimenter la vie tout le temps différemment, il va falloir que nous remettions en question notre façon d'expérimenter la vie. Nos croyances, nos idées, nos préjugés, la façon que je suis avec mes collègues au travail, avec des commerçants, par rapport à mes parents, ma famille. Il faut que je puisse avoir la volonté de remettre tout ça en question et dire, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir ces choses, de voir ces gens, où je peux voir autre chose chez eux? Enfin. Et donc, le cours nous propose une méthode basée sur trois étapes, très simples. Parce que le problème est très simple. C'est les lunettes de soleil. Mettre les lunettes de soleil, c'était ma façon d'écarter la présence de la lumière ou de l'amour, de la réalité. Quelque part, j'avais choisi de les mettre mes lunettes, qui m'empêche de voir la beauté en chacun. Donc, je dois commencer à identifier ce choix d'avoir mis ces lunettes. C'est uniquement à ce moment-là, quand je vois qu'effectivement, j'ai fait un choix de mettre ces lunettes, d'écarter la présence de la lumière et de l'amour, des ressentis profonds de paix intérieure, que je peux le retourner, que je peux faire un autre choix. Le problème est simple, c'est moi qui ai choisi d'écarter la présence de l'amour universel qui est avec nous tout le temps. Donc je dois commencer à voir ce choix. Et je dois le refaire, je dois le défaire, dans un sens. Le fait de le voir, c'est automatiquement le défaire. Parce que personne ne veut continuer à vraiment repousser l'amour quand il a vu son choix. C'est le fait de ne pas voir notre choix qui nous fait continuer. Comme le fait que je ne voyais pas que j'avais mes lunettes. Je ne pouvais pas les enlever si je ne savais pas que je les avais mis. Et donc, dans ce processus de trois étapes très simples, la première étape, c'est simplement de savoir que le problème n'est pas vraiment chez l'autre. L'autre est un reflet. La façon que j'ai ma relation avec l'autre, que je communique, que je capte l'autre, la façon que je réagis par rapport à l'autre. Les agents de la DDE, de mes copains Dave et Abigail, en l'occurrence dans mon cas, dans les Pyrénées, et pour vous dans vos vies, vos partenaires de vie, vos époux, vos enfants et tout le reste, eux, c'est votre tunnel. Ils vont refléter votre choix de mettre les lunettes et d'écarter la présence de l'amour et de la lumière. Il y a des ténèbres, il y a des noirceurs quelque part dans la vie de chacun. Sauf si vous êtes déjà dans l'amour et dans la lumière entièrement tout le temps. Dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a des traces de ténèbres dans la vie de chacun. Ce qui est normal parce que on vient ici dans ce monde ici pour avoir une expérience des ténèbres. Donc c'est normal. C'est entièrement normal. Je vais souligner ça. Si jamais quelqu'un se pose la question, oh mon Dieu, j'ai tant de ténèbres et de noir en moi, je ne les supporte pas. C'est normal. On vient ici tous pour avoir une expérience justement des ténèbres. Ce n'est pas un mystère. Et donc, la première étape, c'est de savoir que tous ces gens-là qui m'enquiquinent sur la route, au travail, dans le gouvernement, c'est eux le reflet. Ils m'aident à savoir que j'ai mis des lunettes. Le problème n'est pas chez eux. Le vrai problème, c'est chez moi. Oui, d'accord, on ne va pas dire que tout est parfait chez eux, ça c'est clair. Ils ont aussi leurs lunettes noires qui leur fait faire et dire des bêtises. Ça c'est leur truc. Mon truc, à moi, c'est d'enlever mes lunettes. Comme ça, je vais accepter la lumière qui est déjà présente et je vais pouvoir le refléter pour les autres. À ce moment-là, eux, ils peuvent faire leur propre choix, s'ils veulent. Donc, première chose, je regarde autour de moi. Et comme je me réveille le matin, je commence à regarder les différents scénarios de vie devant moi. Et je ressens les différentes petites traces de ténèbres dans ma vie. C'est simplement les petits points d'inquiétude, les petits jugements, les petits instants que j'appréhende dans la vie. C'est les petits reflets de noirceur dans ma vie. Et je dis, j'ai envie de voir ça vraiment différemment. Ça, c'est déjà, je défais le déni qui dit, il n'y a aucun problème chez moi. Si seulement mon patron, il pouvait me payer un peu plus, il pouvait reconnaître mon travail, il pouvait arrêter d'en parler en mal de moi. D'accord? Ça, c'est continuer à dire que le problème est toujours chez les autres. Je ne dis pas qu'ils font forcément bien. Je dis juste que ce que j'expérimente de la vie, mon expérience de la vie, si je veux, je peux avoir une expérience profonde de paix et de tranquillité face à mon patron ou une autre personne, n'importe, si j'accepte d'abord que c'est moi qui a écarté la présence de la paix et de la lumière en moi. À ce moment-là, j'ai une chance de remonter la bonne échelle, au moins, d'avoir une chance de trouver cette lumière que je cherche. Donc, j'identifie le vrai problème et je dis, j'ai envie d'aller vers l'amour maintenant. Et c'est ça la troisième étape, c'est de dire simplement, j'ai envie de retourner vers la présence de l'amour. C'est pas à dire que l'extérieur va changer. C'est pas à dire ça. Mais au moins, j'aurai la lumière dans ma vie et l'amour que j'ai cherché. Moi, j'aurai la paix que j'ai toujours cherchée. Ils sont là. Ces présences, cette magnifique présence est là quelque part. Je peux arrêter de le repousser. J'avais dit non à l'amour en acceptant de mettre mes lunettes. Et je peux dire non à mon non. Je peux dire non, j'arrête de dire l'amour, je ne veux plus te voir. Maintenant, je veux te voir. Mais je peux dire à l'amour, je veux te voir, je veux que tu sois dans ma vie uniquement quand je vois que j'ai dit non. Si je ne vois pas que j'ai déjà dit non, je ne peux pas dire oui vraiment. Ce n'est pas un vrai oui. Il y a beaucoup de spiritualités qui disent il faut dire oui à l'amour. Je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est dans l'inconscient, on a un énorme non. C'est ça le problème. Je pense que tous les psychologues sont à peu près d'accord que le conscient représente une dixième de la totalité de notre conscient. Et l'inconscient est à peu près 90%. Quand nous disons j'ai une volonté pour connaître l'amour, je veux accueillir l'amour au fond de moi, on travaille avec le conscient de 10%. On n'est pas en train de travailler avec l'inconscient. L'inconscient est en train de dire non. Écrit en majuscule, en grandes lettres. Et l'inconscient, une partie de nous que nous n'avons pas envie de voir, est en train de dire non à l'amour simplement parce que nous avons peur de l'amour maintenant, nous avons peur de cette magnifique présence de l'amour et de la lumière, curieusement parce qu'il n'y a rien d'autre dans l'existence qui peut vraiment nous satisfaire et nous faire rentrer dans ce sentiment de plénitude et de complétude parfaite. Il n'y a rien d'autre. Quelque part, c'est un peu pervers, nous préférons d'être ces tout petits êtres que nous voyons dans la glace à nous définir avec vraiment les schémas de vie tellement, tellement petits. Nous préférons faire ça que dire tout ça n'est pas si important. Toutes les différents scénarios et schémas de ma vie ne sont pas si importants depuis que je suis un enfant, un bébé. Tout ceci n'est pas si important par rapport à ce choix de dire oui à la fin à cette lumière et cette présence d'amour. Et donc ce livre nous présente avec ces deux systèmes de pensée, et ces deux identités que nous incarnons. Une identité, une petite identité, que nous pouvons dire c'est notre petit soi, et une autre plus grande identité, magnifique identité, qui a aussi son propre système de pensée, bien différent, qui regarde les autres différemment, qui nous fait expérimenter la vie différemment. Nous avons toujours ce choix, dès le moment que nous nous levons le matin, et nous retirons les draps, jusqu'au moment que nous nous recouchons le soir, et le lendemain matin, et le lendemain matin encore, nous avons ce choix devant nous. Quand est-ce que j'ai envie de dire oui à l'amour, ce qui veut dire non à mon non? Quand est-ce que je vais enfin avoir envie de poser mes lunettes noires et dire, embrasser, m'ouvrir entièrement à cet amour et changer mon expérience de la vie? À savoir qu'il n'y a que notre peur maintenant qui nous empêche et que ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché, entre guillemets, d'avoir peur de l'amour. C'est un petit peu bête, mais voilà, on ne va pas dire que c'était un choix de la plus grande intelligence de mettre mes lunettes au soleil. D'accord ? Il n'y a pas un crime à s'aveugler à l'amour. Ce n'est pas un péché. Il faut certainement s'empêcher de penser qu'il y a un problème chaque fois qu'on a remonté de colère ou une remontée d'irritation, de frustration. On n'a qu'une envie, c'est qu'une autre personne disparaisse de notre vie. Ce qui est une façon de dire que ça ne me vient pas si cette personne claque. C'est-à-dire que ce n'est pas des gentilles pensées qui nous habitent. C'est normal. C'est normal. D'accord ? Nous devons confronter justement ces ténèbres, ces difficultés en nous, ces choix des ténèbres. Nous devons confronter ça, nous pouvons les traverser et trouver cette présence de lumière qui est derrière. Elle est véritable. Elle est là et nous accompagne à chaque instant. Sur ça, je voudrais juste vous parler deux minutes sur les premiers pas dans cette philosophie, si ça vous intéresse. Et puis aussi quelques minutes pour quelques questions et réponses. Donc, dans un sens, je ne conseille pas forcément d'acheter ce livre tout de suite, sauf si vraiment vous, vous ressentez une grande envie de l'acheter. D'accord. Vous pouvez toujours faire. Si vous faites, je vous conseille d'acheter l'un de ces livres en même temps qui va vous aider à développer de la patience et aussi la compréhension pour les principes et les structures de la philosophie. Il y en a plusieurs. Je peux vous en parler tout à l'heure. Il y a une introduction à Un cours en miracle qui est très bien, très synthétique. Qui est écrit par mon enseignant Kenneth Wapnick, je dois vous parler peut-être deux minutes de lui, c'était le plus proche collaborateur de Helen Shacklin elle-même, qui est morte en 1981. Et Kenneth Wapnick, qui est un jeune diplômé en psychologie, un docteur en psychologie, il a reçu son diplôme, je pense, en 1971, par là, qui a commencé à travailler avec Helen Shacklin à partir de 1973, qui l'a accompagné, qui est son plus proche collaborateur et ami pendant les 8 ans qu'ils ont travaillé ensemble jusqu'à sa mort. Et puis, il continue aujourd'hui encore à donner des conférences à une grande allure, à lieu d'une conférence par mois, à son centre de formation aux États-Unis. Nous y allons régulièrement pour notre formation. Il a aussi plus de 150 œuvres écrites et enregistrées, donc une énorme ressource pour ceux qui souhaitent faire une découverte profonde de cette matière, malheureusement une bonne partie en anglais pour l'instant. Il a quelques livres en français, dont l'introduction à Un cours en miracle. Un autre livre que beaucoup de gens il paraît que beaucoup de gens aiment bien, c'est ce livre-là, Et l'univers disparaîtra, uniquement parce que c'est très ludique. C'est très ludique, ça parle des principes. Il est aussi un étudiant de notre enseignant, de notre professeur. Mais vous pouvez venir voir ces livres ici, sur la table. Et puis, mais aussi sinon, il y a notre site. Ça fait 2 ans maintenant que nous faisons de l'enseignement sur le cours. Chaque fois, nous faisons une intervention, nous l'enregistrons et nous le mettons sur le site. Donc, ça fait qu'il y a plus de, je pense, 30 heures de conférences maintenant, beaucoup de conférences d'introduction. Après, il y a une série de conférences sur les principes d'Un cours en miracle qui a eu lieu à Sarlat en 2012. Et donc, une série d'introductions de 5 ou 6 présentations, une série sur les principes d'Un cours en miracle avec un schéma pour mieux comprendre les deux systèmes de pensée et le fonctionnement de ces systèmes de pensée. Et après, aussi une série d'ateliers sur le pardon. Parce que ce processus dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 3 étapes, de reconnaître là où il y a le vrai problème, de se tourner à l'intérieur et se tourner vers l'amour, ça nous permet de relâcher notre jugement de l'autre. Parce que nous voyons enfin, ce n'était pas vraiment quelque chose qui m'a été fait. C'est plutôt quelque chose que je me suis fait. Je me suis fait. C'est quelque chose que je me fais tout le temps, chaque fois que je mets mes lunettes de soleil et je ne vois pas la lumière, même quand quelqu'un parle en mal de moi et je me sens blessé ou il y a une tristesse dans ma vie, c'est moi qui écarte cette magnifique présence d'accompagnement qui vient de l'autre côté, qui est toujours là. Nous pouvons aussi parler en ces termes-là, parce que le cours parle beaucoup. Si Jésus est vraiment la présence derrière Un cours en miracle, c'est parce qu'il est notre guide. Il est un guide uniquement comme un grand frère, comme un grand frère ou sœur. On n'est pas du tout formel par rapport à ça. Le guide ou la présence derrière peut porter le nom que vous souhaitez. Ce n'est pas du tout essentiel que ce soit le nom de Jésus ou autre, et vous allez voir que le nom qu'on lui donne n'est pas important. C'est juste une présence d'amour et de sagesse. Et donc, vous pouvez découvrir ces enregistrements sur le site, l'atelier sur les pardons. Nous allons normalement commencer une autre série d'ateliers à la rentrée. Ce que je souhaite faire maintenant, c'est d'approcher le livre plus directement, parce que nous n'avons pas encore fait une série sur le livre lui-même. Jusqu'à là, ça reste vraiment dans le générique des principes et de cette transformation de l'esprit, cette ouverture de l'esprit pour commencer à transformer notre expérience de nos contrariétés, nos gênes, chaque fois quand nous sommes tentés de culpabiliser les autres, au lieu d'aller à l'intérieur et de voir les choix que nous avons faits. C'est tout ça le travail que nous avons fait jusqu'à là avec les présentations et les ateliers. Tout ça, c'est entièrement disponible, c'est disponible entièrement gratuitement. Donc, nous ne gagnons pas notre vie avec cette activité, nous l'offrons. Nous ne sommes pas salariés de l'activité du tout. Nous avons notre travail, ma femme a son travail, j'ai mon travail. Donc, cette activité est vraiment ce que nous arrivons à glisser dans notre temps libre, qui n'est pas toujours beaucoup. Voilà, c'est une ressource pour vous. Donc sur ça, je crois que je vais devoir finir. Et on a peut-être juste, au cas où il y a peut-être une question sur ce que je viens de vous présenter. Peut-être que non. J'espère que j'ai retenu votre attention un petit peu. Le créneau d'horaire de 9h du matin n'est pas toujours le plus facile.
Oui. Je pense que l'idéal pour... dans ce que vous venez d'expliquer, il faudrait toujours avoir deux amis qui puissent nous dire d'enlever les lunettes. Alors, ça me rappelle quelque chose que vous avez dit, c'est le sage africain qui dit « c'est toi, c'est toujours toi ». Puis en fait, avec le doigt que l'on montre, il y a toujours les trois doigts qui montrent « soi ». Et c'est souvent le travail sur « soi » à faire. Voilà ce que je voulais dire.
Vous avez tous entendu, chaque fois qu'on pointe le doigt vers l'autre, il y a encore trois qui pointent vers soi-même. Oui, c'est joli, oui. Et ça serait utile d'avoir deux amis qui vous disent d'enlever les lunettes de soleil. Oui, mais on risque de le prendre mal. Sauf si c'est dit avec la plus grande gentillesse et douceur, à ce moment-là, oui. Oui.
Mais après, vous disiez comme ça que dans le livre, il y a 365 exercices.
Oui.
En fait, c'est un par jour.
Exact. Oui, c'est un exercice par jour pendant une année, sachant que vous n'êtes pas obligé de faire un exercice par jour, mais de ne pas dépasser un par jour. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une semaine pour faire une leçon, si vous ressentez l'envie. Encore à savoir que l'idée n'est pas de faire chaque leçon parfaitement, parce qu'il y a des consignes d'application des leçons, de faire les 10 premières minutes de la journée, les 2 premières minutes de chaque heure, ou une fois par heure, ou une fois tous les demi-heures. On n'arrive pas à les faire parfaitement, c'est pas possible. Donc, premier apprentissage sur le pardon, c'est de pardonner pour l'incapacité de faire parfaitement ces leçons. Ce qui est une façon de dire, je suis imparfait dans ma volonté de connaître l'amour. Et de se pardonner pour cette imperfection, ce manque de volonté parfaite. C'est vraiment le parcours ici, c'est de se pardonner et se pardonner et se pardonner encore, de mettre les lunettes de soleil. Ce qui se passe quand on se pardonne pour notre imperfection, c'est qu'on bascule du système de pensée des lunettes noires, ce qui, dans le langage du cours, est le système de pensée du petit soi, de l'ego, de ce que nous appelons l'esprit faux. Se pardonner pour ces imperfections nous bascule automatiquement vers l'amour. C'est une façon aimante d'être avec ses propres imperfections. On ne cherche pas la perfection, on cherche le pardon de ses propres imperfections. Mieux que ça, on ne peut pas faire. Et c'est ça, la présence de l'amour qui est autour de nous. ça nous pardonne tout le temps, tous les jours, pour les imperfections de l'humanité, de chacun entre nous. Café. Une pause. Le site, tout simplement, uncoursenmiracleenfrance.com. uncoursenmiracleenfrance.com. Vous allez voir aussi, nous avons retenu deux jours de stage, le 24 et le 25 août. Pour cet été, un stage d'été. Nous n'avons pas encore déterminé notre planning pour la rentrée. Il pourrait bien avoir encore des conférences à Limoges. Nous en avons fait déjà deux qui sont bien passées, ça s'est bien déroulé. Vous pouvez écouter l'enregistrement de ces deux premières conférences à Limoges sur le site également. Et si vous voulez recevoir nos emails réguliers avec des remises à jour du site, avec le planning, le calendrier, aussi différents articles du blog que nous envoyons à tout le monde, n'hésitez pas à approcher ma femme qui va prendre votre adresse email. Donc, vous nous laissez votre adresse email, vous pouvez aller sur le site uncoursenmiracleenfrance.com. Vous pouvez venir regarder ces livres ici si vous voulez, ou nous approcher. Nous sommes ici jusqu'à midi inclus, si vous avez des questions en particulier. Surtout si vous avez des questions, comment intégrer ça peut-être dans une autre démarche d'études spirituelles que vous faites déjà. Peut-être je peux vous aider à voir comment ça peut se faire. Sur ça, je crois qu'il ne me reste qu'à vous remercier d'être venu, d'être aussi assidu de venir à 9h du matin. Et vous êtes justement enlevé les draps ce matin pour dire que voilà, j'ai envie de découvrir quelque chose. Il y a d'autres gens qui sont peut-être toujours sous les couverts et des couvertures et qui vont arriver plus tard. Merci, je vous souhaite une bonne journée.